Bonsoir et merci d'être là, ici comme à distance sur Zoom. Je crois qu'il y a beaucoup de monde aussi à distance par visioconférence. Nous sommes réunis ce soir autour d'Elisabeth Anscombe. Alors je le prononce à la française, il faudrait peut-être dire Elisabeth Anscombe pour utiliser plus la prononciation anglophone. Pour la faculté de philosophie des facultés Loyola Paris, c'est en tout cas une grande joie. D'abord parce que trois livres paraissent presque en même temps et nous donnent l'occasion de la relire. Ensuite parce que Anscombe est une philosophe avec laquelle on ne s'ennuie pas. Quelques traits pour ceux qui la découvrent. Née en 1919 en Irlande, morte à Cambridge en 2001. Convertie au catholicisme à l'adolescence, mariée en 1941 au philosophe Peter Gitch. Elle a eu 7 enfants, elle suit les cours de Wittgenstein à Cambridge, apprend l'allemand pour pouvoir lire les manuscrits, traduit les recherches philosophiques en 1953. À la mort de Wittgenstein, elle est avec Ries et von Wright, l'une des trois personnes désignées par testament pour s'occuper des œuvres de Wittgenstein. Son livre « Intention » paraît en 1957. Et c'est le livre qui refonde la philosophie de l'action. L'année suivante, dans Modern Moral Philosophy, elle forge le terme de conséquentialisme, soutient qu'on ne peut pas faire de philosophie morale sérieuse tant qu'on n'a pas clarifié ce que sont l'action, l'intention et les raisons que nous avons d'agir. Cet article relancera l'éthique des vertus. Et 2 ans plus tôt, en fait, elle s'oppose publiquement à Oxford à l'attribution d'un doctorat honoris causa au président Harry Truman, au motif que tuer délibérément des civils est un meurtre. Alors, il y a quelque chose de l'actualité, je trouve, aussi aujourd'hui, de ces questions. Logicienne, catholique, lectrice d'Aristote et de Thomas d'Aquin, mère de famille qui fume le cigare et porte le pantalon dans une Oxford qui ne s'y attend pas, difficile à ranger, mais impossible à éviter quand on s'intéresse sérieusement à la philosophie morale ou à la philosophie de l'action. Donc 3 livres qui vont être présentés ce soir. Le premier, Anscombe on Wittgenstein, Reminiscence of a Philosophical Friendship, donc par John Berkman et Roger Teichmann, donc chez Oxford University Press, qui est sorti cette année. Donc une publication. Donc John Berkman est théologien moraliste à Regis College à Toronto. Donc c'est la faculté, c'est l'équivalent en fait de une faculté sœur de en théologie, parce que c'est une faculté aussi jésuite liée aux jésuites à Toronto. En tout cas John est un des meilleurs lecteurs. Teichmann aussi. Enfin, disons les deux, en tout cas, travaillent depuis des années sur Anscombe. Et ils sont intéressés aussi beaucoup aux anecdotes que Anscombe a rassemblées sur Wittgenstein. Le deuxième livre qui sera présenté, c'est celui de Blandine Lagru. Elisabeth Anscombe, une philosophie de l'intégrité, qui est parue cette année chez Hermann, avec une préface de Roger Puivet, qui est aussi dans la salle. Donc le livre est issu d'une thèse soutenue à Nancy en 2024 et aussi ici, qui a reçu le prix ATHEM, donc l'Association des théologiennes et théologiens pour l'étude de la morale, en 2025. Et Blandine est notre collègue à la faculté de philosophie. La thèse défend qu'Anscombe élabore un type original de réalisme moral articulé autour de la notion d'intégrité et organisé par une question « Comment une personne parvient-elle à saisir le sens et la gravité de ses actes ?» Vous aurez l'occasion de découvrir plus en détail voilà le livre. Et donc le troisième livre qui va être présenté, et je suis très heureux, c'est le livre « L'action humaine » qui est paru chez Gallimard en septembre 2025 dans la collection Folio Essai, qui traduit beaucoup de textes inédits en français, effectivement, d'Elisabeth Anscombe. On trouve par exemple une, une belle traduction de Modern Moral Philosophy dans ce livre. Voilà, donc Valérie Aucouturier enseigne, je crois que c'est professeur, professeur à l'université Saint-Louis, mais qui maintenant a fusionné avec en fait l'université de Louvain-la-Neuve. Voilà, mais tout en enseignant toujours à Bruxelles. Et qui est un livre qui avait été préparé par Vincent Boyer de l'université Laval au Canada et Rémi Clos-Goudard, donc qui enseigne à l'université Grenoble-Alpes. Voilà. Au programme, la vérité pratique, le double effet, l'action sous une description, la causalité, le rapport entre action et intention, voilà, et plein d'autres textes que nous aurons l'occasion de découvrir dans cette soirée. Voilà, donc je vous laisse la parole pour la suite.
Donc bonsoir à tous, bonsoir aussi à vous qui êtes nombreux en ligne. C'est un plaisir pour moi ce soir de participer à cet événement qui marque la profondeur en fait de la réception de l'œuvre d'Elisabeth Anscombe aussi en public francophone. Donc j'avais envie de consacrer les 15 minutes qui me sont imparties à expliquer, à donner des raisons pour lesquelles il me semble important de lire Elisabeth Anscombe aujourd'hui. Donc on peut lire cette philosophe pour différentes raisons. La première raison qu'on pourrait se donner, c'est que il nous faut combler une lacune historique en faisant connaître la voix d'une philosophe entrée tout récemment dans la liste des auteurs au programme du bac de philosophie. En 2021, en France, en effet, la liste s'est féminisée des auteurs et autrices au programme, et Simone de Beauvoir, Simone Veil, Jeanne Hersch, Iris Murdoch et Elisabeth Anscombe ont été intégrés. Ça pourrait être la première raison. La deuxième raison pourrait être de continuer à acclimater, si j'ose ce terme, la pensée francophone à la philosophie anglo-saxonne. L'intention, intention, le grand œuvre d'Elisabeth Anscombe, qu'elle a écrit en anglais et qui est parue en 1958, a été traduit en français en 2002 par Mathieu Maurice et Cyril Michon. Et donc, continuer à lire Anscombe, ça pourrait aussi avoir la signification de prolonger ce mouvement d'acclimatation de la pensée francophone à la philosophie britannique. Mais on peut avoir une raison, en fait, plus profonde. Et c'est celle qui m'intéresse ce soir. On peut avoir un intérêt à lire Anscombe, comme le suggérait notre doyen Éric Charmetant, parce que notre manière de réfléchir sur les questions éthiques est malade. Et que nous avons besoin d'une critique radicale des philosophies morales modernes. Elisabeth Anscombe est en effet une penseuse de la corruption intellectuelle qui précède la corruption morale. Et à ce titre-là, ça en fait une autrice pertinente, complètement pertinente pour aujourd'hui. Ce qui inquiète Anscombe, et ce que je vais essayer de présenter, c'est la manière dont certains raisonnements, présentés comme lucides et objectifs, détruisent la possibilité même du jugement moral. Une penseuse de la corruption intellectuelle qui précède la corruption morale. Un bref retour sur le contexte. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la jeune Elisabeth Anscombe, étudiante en philosophie à Oxford, croise le destin de trois autres étudiantes. Vous les avez ici représentées. Il s'agit d'Iris Murdoch, de Mary Midgley et de Philippa Foot. Anscombe, c'est la troisième, à partir de la droite. Alors que la présence des femmes à l'université est encore récente, leur rencontre va donner naissance à une aventure intellectuelle aujourd'hui bien documentée, qu'on va appeler le Quartet d'Oxford. Le fait est que ces quatre philosophes ne vont pas se contenter de s'intégrer à une institution qui est encore peu ouverte à leur présence, mais elles vont en contester les idées dominantes. À la fin des années 30, en effet, l'idée selon laquelle les jugements moraux n'expriment rien d'autre que des attitudes subjectives s'impose largement. C'est ce qu'on appelle, en philosophie morale, l'expressivisme. issue de Heyer, de la pensée de Richard Mervyn Hare ou Stevenson. C'est l'idée que je brosse ici à grands traits. C'est l'idée que les jugements moraux n'expriment rien d'autre que des attitudes subjectives. Dire d'un acte qu'il est généreux ou franchement déloyal, ce n'est rien d'écrire du réel. Ces jugements expriment tout au plus des préférences. Et il se trouve en fait que les philosophes du Quartet sont convaincus du contraire en fait. La philosophie doit parvenir à dire qu'Hitler est un homme mauvais, que la torture est un acte cruel, que le meurtre est interdit. Autrement dit, la philosophie morale doit pouvoir dépasser la position subjectiviste pour prétendre décrire quelque chose du réel. Et Philippa Foot ne mâche pas ces mots. Elle dira, face aux nazis qui se sentaient justifiés de faire ce qu'ils faisaient, le subjectivisme n'offrait qu'une impasse. La philosophie dans Scombe commence ici. Récupérer les catégories morales dont nous avons besoin pour regarder la réalité en face. Avant d'entrer dans le sujet plus précisément, un dernier petit mot. C'était effectivement une philosophe mariée à Peter Gitch. On a bien vu cet après-midi, plusieurs chercheurs étaient réunis aux facultés Loyola Paris pour discuter de l'héritage en scombien. Mais on a bien vu toute l'importance que le contexte catholique jouait dans sa vie intellectuelle. Elle rencontre son mari Peter Gitch, épris de philosophie et de logique, qui comme elle est entré récemment dans l'Église catholique. Ils vont se marier, avoir des enfants. Donc c'est l'homme que vous voyez à côté d'elle. Philippa Foot, son amie qui était athée, releva avec humour que la convergence de leur caractère et de leur centre d'intérêt pouvait s'interpréter comme un argument en faveur de la providence divine. Donc, j'espère que ceux qui sont en Zoom ne sont pas trop gênés, qui peuvent continuer à nous suivre. En tout cas, je vais continuer. J'aimerais revenir brièvement sur une anecdote importante dans l'itinéraire intellectuel d'Anscombe qui en fait signe son entrée dans le débat public. C'est un épisode qui mérite d'être raconté parce qu'il fournit en quelque sorte les coordonnées de sa philosophie. Alors nous sommes à Oxford en 1956. C'est une slide noire. Il y a des pauses parfois aussi. Donc on est à Oxford au printemps 1956 et le fleuron de la société intellectuelle britannique est réuni dans la Convocation House pour répondre à une question. Quelle personne publique mérite d'être distinguée pour sa contribution au bien commun ? Tous les ans, l'Université d'Oxford décerne un doctorat honorifique et cette année, en 1956, le nom qui est sur toutes les lèvres est celui de l'ancien président américain Harry Truman. Alors que les débats sur les risques supposés d'une féminisation de l'université bruissent encore dans les couloirs, Elisabeth Anscombe, 37 ans, jeune philosophe, va prononcer un discours vigoureux dans cette Convocation House devant tous ses collègues pour s'opposer à leur décision d'attribuer un doctorat honorifique au président Harry Truman. C'est ce qui a donné lieu à ce pamphlet, à ce texte, Mr. Truman Degree. Pour elle, la situation est simple. On ne peut rendre hommage à un homme connu pour être un criminel. Le président américain est responsable de la décision de larguer les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. En prenant pour cible des civils innocents, il a violé de manière flagrante l'interdit du meurtre. Ce n'est pas un acte de guerre légitime, mais c'est un crime de masse. Alors, un point d'histoire. Après la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 45, les alliés, US, Royaume-Uni, France, Pologne, rejoints par l'URSS, ont pour objectif de mettre un terme complet à la guerre. Mais il reste des combats dans la zone Asie-Pacifique, notamment avec le Japon impérial. En juillet 45, Harry Truman, Winston Churchill et Chiang Kai-shek adressent aux Japonais un ultimatum exigeant la capitulation inconditionnelle, sans quoi la destruction serait rapide et totale. Les Japonais refusent. les 6 et 9 août 1945, l'arme nucléaire est utilisée pour la première fois dans l'histoire sur les villes peuplées de civils que sont Hiroshima et Nagasaki. Le nombre de victimes aujourd'hui admis, si on additionne les victimes de l'impact et des suites du bombardement, avoisine les 320 000 personnes. Aujourd'hui, au Japon, il y a un terme qui est dédié aux survivants du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est le terme « Hibakusha ». Le gouvernement japonais, en 2025, reconnaît que 650 000 personnes sont des Hibakusha. Donc c'est le double des victimes immédiatement perceptibles des bombes. Le but avoué de l'utilisation des bombes atomiques était de forcer la capitulation pour éviter d'avoir à envahir le Japon, ce qui aurait entraîné des pertes massives parmi les soldats. On pouvait donc, pour de bonnes raisons, détruire des civils afin d'éviter la mort de soldats américains. Sur le moment, le sophisme n'avait guère suscité d'indignation. Il avait enflammé la colère d'Elizabeth Anscombe. Avions-nous donc besoin de longs discours ou avions-nous besoin d'un cœur particulièrement compatissant pour reconnaître que le meurtre d'un innocent était un acte d'une horreur inouïe? Méthodiquement, elle avait démonté l'argument et cette pugnacité lui vaudra d'être gratifiée du titre de Daniel moderne dans La fosse aux lions. Pour ses collègues, au contraire, Truman n'est pas un meurtrier de masse mais un héros qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Quelques semaines plus tard, le 20 juin, un doctorat honoris causa est décerné à Harry Truman. Elizabeth Anscombe n'aura pas convaincu l'Assemblée. À la question « Pourquoi ?», Harry Truman répond, et ça c'est une citation d'un discours prononcé à la radio de l'époque, « Nous avons utilisé l'arme atomique pour raccourcir l'agonie de la guerre, pour sauver des milliers et des milliers de vies de jeunes Américains. » En cherchant à se justifier ainsi, le président Truman omet une distinction capitale. En cas d'invasion du Japon, les victimes seront prioritairement des combattants réguliers et secondairement des civils. En cas de bombardement atomique, les victimes seront prioritairement et même exclusivement des civils. Des civils qui sont innocents. Ça, c'est un concept sur lequel Anscombe est revenu plusieurs fois. Innocence, ça veut dire « in no chance », celui qui ne fait pas de mal, celui qui n'est pas dans la situation, dans la position de causer du tort. Dans le cas de la guerre, dans une situation de conflit armé, l'innocence ne désigne donc pas une qualité morale, elle renvoie au fait d'être désarmé ou hors d'état de nuire. C'est un statut juridique, politique, institutionnel et non pas une qualité personnelle. Ainsi, les soldats qui se rendent deviennent des innocents. Donc, par définition, des civils sont des innocents, parce qu'ils se distinguent des combattants qui, eux, portent légitimement les armes. Donc, vous comprenez qu'avec cette définition de l'innocence, si quelqu'un vous agresse et veut attenter à votre vie, dans le moment, dans l'acte de son agression, cette personne n'est pas innocente, puisqu'elle cherche justement à vous nuire. Si en vous défendant, vous en venez malheureusement à tuer cette personne, il faudra discuter précisément le cas, mais il est possible que vous n'ayez pas commis un meurtre, parce que vous n'avez pas tué intentionnellement un innocent, mais un assaillant direct. Cette distinction est capitale, parce qu'elle nous permet de comprendre pourquoi, à qui Anscombe s'oppose-t-elle et pourquoi. Les personnes qu'elle critique sont celles et ceux qui minimisent la responsabilité du président en la recadrant. Ceux qui défendent Harry Truman en disant « ce n'était pas son intention à lui, il n'était qu'un pion dans un système plus large » ou ceux qui disent « ce n'était pas vraiment son intention c'était en faisant cela d'atteindre un autre but, ce qu'il voulait c'était uniquement mettre fin à la guerre ». Pour Anscombe, ces deux justifications sont de mauvaises excuses. Et elle part d'un constat simple, mais souvent peu remarqué. L'idée qu'une action peut supporter plusieurs descriptions. Il y a plusieurs manières de décrire une même action. Et donc on en vient à la question centrale. Que fait réellement Harry Truman? Comment décrire son action quand il décide du largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki? Première description. Il signe et dépose un peu d'encre au bas d'un document. Deuxième description. Il met fin à la Seconde Guerre mondiale. Ces deux descriptions sont justes, mais en ce qu'on va montrer que des descriptions correctes peuvent être fausses si on escamote le lien de dépendance qu'elles entretiennent avec une autre description, à savoir, il prend des civils pour cible d'un bombardement nucléaire. Seule cette troisième description capture l'action intentionnelle de Truman. Seule cette troisième description nous dit ce qu'il a expressément fait. Et c'est précisément celle-ci qui est discrètement passée sous silence. Ce qu'en ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut se tenir dans l'ordre du vrai, produire des descriptions correctes et pourtant penser faux. Un discours, disons-le vrai, s'il est mal organisé, peut rendre la méchanceté imperceptible. Mal organisé au sens où il met en exergue, par exemple, les deux premières descriptions en omettant, en occultant la troisième. La question est donc celle de la grammaire de l'intention. Ces trois descriptions apportent en effet une réponse, un jugement moral très différent. Voyez, si on prend la description 1, il signe et dépose un peu d'encre au bas d'un document, on pourrait avoir l'impression qu'il faut laisser tranquille Harry Truman, que sa responsabilité n'est pas véritablement impliquée, mais que c'est plutôt la responsabilité d'un système dans son entier qui est à pointer. Si on place l'accent sur la description numéro 2, il met fin à la Deuxième Guerre mondiale, dans ce cas-là, on devrait féliciter Harry Truman d'avoir mis fin à la guerre. Si on prend la description 3, on devrait donc le condamner pour crime de masse. Répondre à cette question, que fait Harry Truman ? Ça revient donc à discerner entre ces options d'interprétation. Pour cela, il faut déterminer comment les descriptions s'ordonnent logiquement les unes aux autres. Anscombe ne nie pas la difficulté. Ce sera un des sujets de son ouvrage majeur, paru en 58, intitulé « L'intention ». Pour le dire en un mot, en fait, sa philosophie, elle nous aide à examiner les conditions de l'imputation, les conditions de la responsabilité. Elle nous aide à comprendre la manière dont l'intention d'une personne contribue à déterminer la nature de ce qu'il fait. Alors, je vais juste faire deux points, très brefs, sur des aspects de cette argumentation riche, très fournie, d'Elisabeth Anscombe sur cette question, mais qui donne un goût, je crois, de ce qu'elle a voulu faire à travers son œuvre. Donc deux points importants sur la grammaire logique de l'intention. Ce que va dire Anscombe, c'est que d'abord, quand on cherche à comprendre l'intention d'une personne, la notion qui doit guider l'enquête est celle d'action intentionnelle et pas celle d'idée mentale. Anscombe affirme que l'intention d'une personne n'est pas ultimement déterminée par ce qui se passe dans la sphère de son esprit. Ce qu'un humain vise, son intention, est révélé par ce qu'il est expressément en train de faire, à savoir l'action intentionnelle. La première chose à considérer est donc ce qui a lieu, et là je la cite, ce qui a lieu physiquement, c'est-à-dire ce qu'un homme fait réellement. Ce changement de perspective, Anscombe le résume dans une petite phrase presque anodine, je cite, « En gros, l'intention d'un homme, c'est son action. » Il s'agit donc de lire l'intention, non pas dans le secret des cœurs, mais dans ce qu'on fait. Une fois opérée cette conversion du regard, on peut mettre à profit un deuxième trait de la grammaire logique de l'action. Un examen attentif de nos usages conduit à distinguer entre l'intention pour le futur, celle qui spécifie l'horizon de l'action en révélant le résultat que l'on prétend atteindre, et puis l'intention incarnée dans l'action, celle qui rend intelligible ce que l'on fait effectivement. Dans le cas qui nous intéresse, quelle est l'intention pour le futur ? Obtenir la capitulation des Japonais, ce qui devrait mettre fin à la guerre. Quelle est l'intention incarnée dans l'action ? Autrement dit, que sommes-nous en train de faire ? Effectivement, on est en train de prendre des civils pour cible d'un bombardement nucléaire. Et en fait, en ce qu'on va montrer que les deux usages de l'intention, ces deux usages de l'intention ne peuvent pas être mis sur le même niveau. On ne peut pas choisir entre les deux. Il serait aberrant, explique-t-elle, de se focaliser uniquement sur l'objectif ultérieur en omettant en mettant de côté l'intention incarnée dans l'action. Harry Truman, le président américain, ne peut prétendre de manière sensée « ce que je voulais, c'était uniquement mettre fin à la guerre ». Il ne peut pas affirmer que son intention n'était pas de massacrer des civils, si c'était le moyen qu'il avait choisi expressément pour obtenir la capitulation des Japonais. Or, viser des civils pour les bombarder, qu'est-ce, sinon la description d'un acte qui a la nature et la qualité d'un meurtre, et même d'un meurtre de masse. Pour Anscombe, et je m'arrêterai sur ce point-là, le cœur du jugement moral, c'est donc pas l'équilibre des conséquences, qui ici est spécifié par l'intention pour le futur, mais c'est bien la description correcte de l'acte intentionnel. C'est ça le cœur palpitant, le centre de gravité du jugement moral. En arrière-plan, et ça mériterait une autre conférence, elle soutient une thèse scandaleuse pour la morale moderne, l'existence d'interdits absolus. Dans un paysage intellectuel où les interdits comme le meurtre paraissaient de plus en plus archaïques, elle n'a jamais cessé de les juger intelligibles. Pour elle, résister intellectuellement signifie reconnaître qu'il y a certaines choses interdites et qu'à leur seuil, on ne doit pas se laisser tenter par la peur ou par l'espoir des conséquences. Et donc, je vous remercie. J'espère vous avoir donné un aperçu de la manière dont la philosophie d'Anscombe, en fait, nous oblige à réviser nos manières de philosopher parce qu'elles vont conditionner nos manières d'agir et de juger notre action. Je vous remercie. Alors ça, c'est vrai que c'est des questions d'interprétation de fond qui peuvent être assez glissantes parce qu'on a des indices, mais peut-être pas d'éléments textuels pour appuyer notre interprétation. Mais une des idées qu'on pourrait développer, en tout cas, je l'avais fait ici lors d'un colloque sur femmes et philosophie, c'était l'idée de dire que cette position légèrement encore marginale des femmes dans l'Oxford des années 50, peut-être les avait mis un peu à part, et en les mettant un peu à part, leur avait donné une liberté de jugement, une liberté de critique de la philosophie qui avait cours à l'époque. Et il y a plusieurs textes, c'est ça les micro-indices qu'on interprète, mais de Mary Midgley ou d'autres philosophes de l'époque, hein, qui fustigent une philosophie de garçon d'école. Une philosophie faite par des gars brillants qui veulent montrer qu'ils sont intelligents, qui réfléchissent sur des cas parfois très sophistiqués, mais qui du coup sont déconnectés des réalités et de l'urgence du temps qui est le leur. Et donc peut-être que cette situation de marginale les a aidés à porter un jugement d'une grande sévérité, en fait, sur les philosophes morales, la philosophie morale de leur temps. Voilà ce que je pourrais dire. Ça mériterait beaucoup plus de précision et de nuance. Une dernière.
Merci beaucoup, Blandine. Est-ce que Anscombe peut nous aider à comprendre un peu comment est-ce qu'on peut aborder cette relation entre l'éthique et la morale? Est-ce qu'elle peut nous permettre aujourd'hui de... Est-ce que tu parlais d'éthique, tu parlais de principes moraux? Moi, dans mon travail, je dissocie les deux. Comment est-ce qu'on peut... est-ce qu'elle peut nous aider un peu à éclairer ça, comme Paul Ricoeur le fait ou d'autres?
C'est pas une distinction sur laquelle elle va revenir en tant que distinction lexicographique. Il y a effectivement dans la manière d'enseigner la philosophie aujourd'hui, on va distinguer la morale qui serait peut-être plus du côté de la déontologie, identifier des obligations, des principes, des règles, et puis l'éthique qui elle serait plus dans une sorte de veine aristotélicienne, une éthique du caractère, un façonnement de la personnalité qui permette de prendre les bonnes décisions. Pour elle, justement, dans le travail d'un de ses articles, Modern Moral Philosophy, elle va chercher une voie. Elle va faire l'hypothèse que l'optique éthique aristotélicienne pourrait être une voie alternative dans un contexte où le soubassement métaphysique des devoirs moraux, à savoir l'idée d'un dieu législateur, n'est plus recevable. Donc peut-être que ça serait un peu dans cette direction-là qu'il faudrait chercher pour une forme d'articulation en reprenant les catégories qui...
Let them go to those who are not. All right, this evening I'm going to speak about Elizabeth Anscombe's person and her relationship with Wittgenstein. It'll be two parts. The first part is introducing Anscombe, her early life and the development of her personality. Elizabeth Anscombe was one of the most important philosophers of the 20th century, whose work ranged incredibly widely across philosophy. While some of her philosophy was highly technical and difficult to understand, Anscombe was unusual in writing a lot that was accessible to non-philosophers, addressing the most important issues of the day, some of which Professor Le Grou has already addressed. Because Anscombe wrote not only as a philosopher, but as a citizen and a Catholic Christian. By that I mean that she took her responsibilities as a member of civil society and of her faith tradition highly seriously. And these commitments gave her work, especially in moral philosophy, an uncommonly deep and serious character. Anscombe's significance has been recognized by other major philosophers of her generation. One such philosopher, despite personally disliking her greatly, acknowledged that Anscombe was, quote, undoubtedly the greatest woman philosopher who ever lived, unquote. Beyond the intrinsic significance of Anscombe's work, she has become something of an icon in the 21st century. Various centers for ethics have been named after her. In the United States, since 2005, clubs called the Anscombe Society have sprung up at various Ivy League universities in the U.S., for example, at Princeton, Harvard, and Columbia. Anscombe is also noted for many of her countercultural stands on various things. For example, up until the time she was 50 and became Professor Anscombe, she always insisted on being called Miss Anscombe, even though during that period she was happily married to another philosopher, Peter Geech. She was also the mother of 7 children who were born over a period of 19 years, the oldest being born when Anscombe was 24 and the youngest when she was 43. As a teenager, Anscombe had 2 passions. The first was Catholicism, to which she converted at age 15 after wrestling for 3 years with religious questions. The second was philosophy, which Anscombe would pursue relentlessly and without a break for the rest of her life, at least until the very end, when she sadly acknowledged she could no longer think about philosophical problems. Philosophy was for her a consuming passion to ask both the simplest and deepest questions about human life and existence. As an undergraduate, she already sensed what were the serious philosophical questions, what she called the stuff. Anscombe had the greatest admiration for those philosophers who were engaged in the stuff, even if she thought a particular philosopher was always coming up with the wrong answers. On the other hand, she had nothing but scorn for philosophers who were not serious, as she understood it. In other words, who were more interested in being clever, criticizing others, and winning arguments. Anscombe's philosophical ability and intellectual independence were evident as an undergraduate. She went up to Oxford with her college's most prestigious scholarship, one they could only afford to give out once every 4 years. While Anscombe's mandated course of studies included both philosophy and ancient Greek history, Anscombe mostly ignored the history curriculum, seemingly without regard for the potential consequences of doing so, e.g., keeping her from getting the grades in her exams necessary to continue to do further philosophy studies after her undergraduate period. However, Anscombe's final exam papers in philosophy were apparently so spectacularly brilliant that she received a first-class degree solely on the strength of her philosophy papers. While an undergraduate, Anscombe, this is right before the war, joined a Catholic peace group that was educating Catholics on how to be conscientious objectors to Britain's war. In the spring of 1940, Anscombe published a pamphlet arguing that Catholics could not participate in Britain's war since Britain intended to fight unjustly, namely to intentionally target non-combatants. Such a pamphlet could conceivably have gotten Anscombe thrown into jail, but equally significantly, While conscientious objectors were tolerated in Britain, they were generally reviled by the public. Anscombe showed her fearlessness, her willingness to speak what she considered to be the truth, regardless of the consequences for her life. The 1940s were a decade of tragic and difficult circumstances for Anscombe. Anscombe lost her father to cancer when she was 20. Her family home in London was damaged beyond repair in the Blitz when she was 21. One of her two brothers was killed in the war when she was 24. And around the same time, her mother had to be permanently institutionalized because of mental illness. After her father's death, he being the sole source of the family's income, the family's fortunes rapidly deteriorated, and Anscombe would be poverty-stricken throughout the 1940s. She married the philosopher Peter Geech at the age of 22, and for the first 4 years of her marriage, he was largely absent, working as a conscientious objector, doing forestry work in the south of England. At the age of 24, she had her first child, Barbara, and was so poor that one of her former tutors and friends, the philosopher Martha Neal, arranged to give her money anonymously so she could continue to feed herself and the baby. In 1942, she started as a graduate student at Cambridge. At the time, Anscombe's philosophical interests were on questions about human nature and knowledge. Her doctoral dissertation, mostly completed in 1944, but never submitted for a degree, was on the relationship between the body and the soul in Plato, Aristotle, Aquinas, and Descartes. The famous remark about her dissertation was that she showed it to Wittgenstein, and he told her that it wasn't, quote, house-trained, unquote, which she took to be his way of saying, excuse my language, it was shit on the floor. And she put it in a file with that as the title of the file. Once she became a student and friend of Wittgenstein, besides continued work on the soul and body, Anscombe wrestled with basic questions in epistemology, especially Descartes' cogito, and questions of the relationship between the future and the past. Anscombe would get her first academic job in 1946, a research fellowship that took her back to Oxford. Anscombe's research fellowship was supposed to allow her to focus exclusively on research, and so one condition of this fellowship was that teaching was prohibited. But because Anscombe was so poor, her college allowed her to do some teaching on the side to make enough money to feed her family and pay the rent. Since during this time her husband Peter Geech was unemployed and would remain unemployed until 1951. Once back in Oxford, Anscombe quickly established herself as a voice to be reckoned with. One of the most famous stories from this period is when she decisively criticized a piece of work by the famed literary critic C.S. Lewis. Lewis at the time was famous as an orator and a debater, and he had a reputation for never losing in intellectual confrontations. But on this particular occasion, everyone, including Lewis, recognized that this very junior female philosopher had decisively shown a key error in something Lewis had published. Furthermore, in 1948, only 2 years after Anscombe arrived back in Oxford, and still having published nothing, her college asked for an evaluation of her from the philosopher Gilbert Ryle. Ryle, who at the time was the main power broker of all things philosophy in Oxford, indicated in his report that although Anscombe had published nothing and that he really did not know much about her, what struck him was that whenever it was learned that Anscombe had been at a philosophical gathering, everyone always asked, what did Anscombe say? On the basis of her recognized brilliance in conversation at meetings, Ryle confidently predicted that Anscombe could be expected to become a major philosopher. In November of 1949, shortly after Wittgenstein returned to England from 3 months in America visiting Norman Malcolm at Cornell, Wittgenstein was diagnosed with a fatal form of prostate cancer and was predicted to have only a year or two to live. For the majority of the last 17 months of Wittgenstein's life, he lived at Anscombe's house in Oxford, where she looked after him when he was unable to look after himself. Although it is often joked that Wittgenstein referred to Anscombe as, quote, old man, unquote, there are two things to note. First, old man was an expression of great endearment for Wittgenstein. Secondly, after a relatively short period of time, Wittgenstein then referred to Anscombe as Medea, which I'm not sure that he ever referred to anybody else in that way. Second, Anscombe's relationship with Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein is widely acknowledged as the greatest philosopher of the 20th century and typically makes it onto lists of the 10 greatest philosophers who ever lived. Wittgenstein's weakness was his perfectionism, which kept him from publishing the work he did for the last 20 years of his life. It was left to his friend and student, Elizabeth Anscombe, to edit and translate Wittgenstein's philosophical masterpiece, that is, The Philosophical Investigations. In my remaining time, I will introduce you to some of the ways that Wittgenstein particularly influenced Anscombe. First, intellectual seriousness. As I noted earlier, from her undergraduate days, Anscombe was preoccupied with the stuff, what she considered a serious philosophical question. Wittgenstein also had a very low opinion of most of what passed for philosophy in England. And thus, exacerbated by the influence of Wittgenstein, Anscombe developed a scathing attitude toward the prevailing intellectual philosophical ethos in Oxford. O.K. Bousma, an American philosopher who was a friend of Wittgenstein and got to know Anscombe when he was in Oxford in 1950-51, describes her view after a conversation with her. Bousma says, "What interests me is her attitude towards philosophers in Oxford. She thought I would find the atmosphere depressing. Cheap, cheap, there aren't any problems, and these people are all above it. They have easy dispositions for all difficulties, a certain shallowness which goes with their cleverness. It's as though they feel they have the key to all mysteries and feel now a delight in their unmasking of the emptiness of all pursuits." Wittgenstein talks about some men as deep and serious. Perhaps it's just that these clever but shallow men strike Miss Anscombe as like magicians who with a certain trickery and sleight of hand expose the poor ninny philosophers whom they seize upon. The ninny philosophers may not have had the benefit of borrowed cleverness, but they were very earnest. They had problems to which they gave their lives and hard labor. These people have nothing to do but debunk. It isn't then that these people are mistaken in what they say. It is that they have nothing but this show they put on. What a clever boy I am. These other philosophers made mistakes in earnest, but what now are you doing in earnest? There you are crowing over the mistakes of earnest men. So you will never make an important mistake, for nothing is important to you. Wonderful. Crow. Secondly, what Anscombe picked up from Wittgenstein was a sense of what was called ruthless authenticity, long before Charles Taylor took up the term. One thing that many people I have interviewed, both philosophers and non-philosophers, have said is that Anscombe did not care what people thought of her. That is, Anscombe felt a freedom to do what she thought was right and was firm in her convictions, and that she was not one to be swayed by worrying about what people would think of her if she did something unpopular or unconventional or at what some people would disapprove of. Under the influence of Wittgenstein, Anscombe's way of doing philosophy and her way of life was appealing, was greatly appealing to some other young philosophers who got to know her at this time. For example, Iris Murdoch saw in Anscombe something she didn't find in other philosophers in Oxford. Murdoch was in awe of Anscombe's moral seriousness and her what Murdoch referred to as her ruthless authenticity. After Murdoch first went to visit Anscombe, she then wrote in her diary, first quoting Psalm 25, "I will wash my hands among the innocent and will compass thy altar, O Lord." Then she wrote in her diary, "On conversation with Elizabeth, no second-rate philosophy is any good. One must start from scratch, and it takes a very long time to reach scratch." To discuss Soren Kierkegaard, Murdoch remarked from Anscombe was like receiving a tender, anxious glance from a friend and then discussing it with an art critic. And some of these is not clear whether Murdoch's getting them from Anscombe or from Wittgenstein via Anscombe. The ruthless authenticity of Elizabeth makes me feel more and more ashamed of the vague, self-indulgent way in which I have been doing philosophy. I must make a tremendous effort if I am to get any sort of philosophical clarity or truth out of the sea of fascinating, dramatic, psychological, moral, and other ideas in which I've been immersed. What was unclear again in Murdoch's writing here was whether she understands herself to be quoting Anscombe or Anscombe quoting Wittgenstein. The other thing to note is that following this quote, over the next 3 years, Anscombe would dominate Murdoch's diaries. It's clear that Anscombe became Murdoch's seemingly main philosophy teacher in the late 40s. Third, Wittgenstein's ability to untangle philosophical muddles. In her reminiscences about Wittgenstein, Anscombe writes, "Once in a lecture I said, 'But I want to say blue is there.' And he said, 'Now let me find the medicine which is the right one for you now.' And then came out with the idea of pain patches on fruits and plants. This was certainly effective. I've always since understood what Locke's idea about secondary qualities was like." And she goes on, "Wittgenstein very often seemed to understand my philosophical thoughts and problems better than I did myself. And I would say what I thought, and then he would amplify it, make it more convincing, make the argument deeper, and then he would undo it all." What was extraordinary about Wittgenstein, according to Anscombe, was Wittgenstein's uncanny ability to diagnose each individual student or fellow philosopher's specific intellectual muddle and administer the appropriate medicine to relieve the student's intellectual sickness. So what Wittgenstein wanted his students to articulate was what they really were thinking, rather than trying to sound more sophisticated or subtle, which inevitably made things worse. One philosopher that Wittgenstein greatly admired for putting things plainly, even if he often said things that were philosophically mistaken, was William James. Anscombe writes of this, "Of William James, Wittgenstein said, 'He was a man.' He spoke with admiration of James writing down what he crudely wanted to say. Wittgenstein was never interested in subtlety in philosophy. Again, he called him his illustrated turns of speech. Anscombe's friend and colleague, Philippa Foote, also told of learning this lesson from Wittgenstein and Anscombe. Foote said the most important philosophical lesson she ever learned for doing philosophy was as follows, quote, 'When you find yourself saying something absolutely crazy, the thing to do is not try and drive the thought out, but to stick with it, to give it its day, its week, its month, its year, if need be, in court.'" Fourth, Wittgenstein's evaluation of the goodness in people. Wittgenstein is famously thought to have been very prickly, very disagreeable, and to some extent this was true. But it gets exaggerated because most of the reports come from those who particularly evoked Wittgenstein's frustration, in other words, professional philosophers. In mid-century England, many philosophers embodied the standard class prejudices and snobbery of the English upper class, either because they were of that class or aspired to be of it. Wittgenstein and Anscombe were completely without this common sense of superiority between the upper class and ordinary people. In fact, Wittgenstein seemed to particularly enjoy and revel in the company of certain kinds of people who were utterly unphilosophical. As Anscombe writes, "Many of the people he liked best had a very plain, bald, simple sort of affectionateness, which shows in their letters to him." She's referring to people who had no philosophical interests or abilities. "I believe he wanted this from people very much and valued it enormously when he got it." She goes on, "I can see now that one of the things he was very sensitive to was goodness of heart, which made him speak very appreciatively of people. He would say that someone was nice at once because he could see that. And if it had been positively built up so that what a person thought and thought of doing was impregnated with it and showed discernment too, he would say, 'So-and-so is colossal.' But he would react very critically and not enjoy what was done for him in ways that he somehow registered unfavorably." And like Wittgenstein's very individualized judgments of people's intellectual difficulties, so his responses to problems in people's lives were also highly individualized. So Anscombe adds about the particularity of Wittgenstein's judgments on people. She writes, as to his judgments of people, "It was difficult to generalize. I remember his one saying, 'With one person you find everything in disorder, and it is awful. With another, everything in disorder, but it doesn't matter at all. In other words, his judgments of people were only individual, and if he disliked something, it wouldn't follow that he would object to it in something or someone else. Fifth characteristic, Wittgenstein sensing superficiality and not being able to say things he didn't mean. Anscombe also notes Wittgenstein's profound sensitivity to what people said and the unpredictability of how he would respond. A somewhat comic example came up when Wittgenstein went on a retreat to a Benedictine abbey. When Wittgenstein was departing the abbot expressed the hope that Wittgenstein had enjoyed his visit. Wittgenstein replied that he had not enjoyed it. In saying this, Wittgenstein was not intending to insult the abbot, nor to indicate that he had not enjoyed his visit. Rather, Wittgenstein's point was that he had not gone to the abbey to, quote-unquote, enjoy himself, but for rather different purposes. Wittgenstein's character was such that he could not allow himself to potentially mislead the abbot. As Anscombe notes in the Reminiscences, this is a good example of why it was that so many people found Wittgenstein difficult or intolerable to be around. Anscombe's lack of understanding of Wittgenstein's spiritual seriousness. Anscombe was known to say that no one understood Wittgenstein's religious beliefs. Perhaps it was in part because she clearly did not understand him. But in the Reminiscence, certain remembrances or aspects of Wittgenstein's spiritual seriousness, even spiritual despair, came to her and which affected her deeply. She writes as follows. I don't know from when his idea that he was lost stemmed. Possibly this always was his tendency, but possibly from the time in the 1920s when he thought God called him and what he had to do was obey the call was. From then on, without calculation or consideration, to do whatever came into his head. He had not the courage or resolution or obedience to face this prospect. When Wittgenstein gave expression to that belief of his, that is, he was lost, it was depressing to an extreme degree. He was, as it were, unapproachable about it. I remember his parting from me once with the words, "Only the deity can help me," unquote. Except that it was depressing. I did not know what to make of him, of those utterances. I didn't know how serious they were. I believe, in fact, he was quite serious whenever he appeared serious. I've often thought about a time when he said to me, more than once indeed, "If someone asked me if I believe in the devil, I believe in the devil in man. But I think I should not torment myself with a bogey." Now, this was the utterance of a man who really was in danger, or had been in danger, of being frightened by the thought of the devil. But it could have been the utterance of one who was not really at all inclined to torment himself with that thought. So I heard Wittgenstein in puzzlement because I was unsure of answering him, as I would answer someone else who said a thing like that. And indeed, pretty sure if I answered, it would be a mistake. But I did not really grasp that he meant it, and I would usually be silent. I never knew anyone who said so little that he did not mean. In his writings, there aren't, I think, careless words. As we learn in the book, Anscombe was deeply concerned about Wittgenstein's despair in these moments. It is clear that during the last year of Wittgenstein's life, when Wittgenstein was seriously ill, and during the time Anscombe nursed him for a number of months, that she greatly comforted him in her care for him. To end on a lighter note, Anscombe reports in her Reminiscences that Wittgenstein once told her a saying, which Anscombe understood to be a French proverb. Anscombe writes as follows. Early on in our acquaintance, Wittgenstein quoted to me with great approval a French proverb, "On ne peut pas chier plus haut que le cœur." Unfortunately, it is not clear it was in fact a French proverb. There is a German proverb that is much closer to this wording. If it was a French proverb, then it would have been stated rather differently, as to translate in, the more usual French phrase is something like Peter plus haut que son cul, i.e. that one can't fart higher than one's arse. It's generally applied to someone who has too high opinion of himself. Either way, this proverb also says something important about Wittgenstein's character, which he clearly passed on to Anscombe. Thank you.
C'est quelque chose qui me hante un peu parce que.
Why is he asking me?
Je vais poser la question en anglais aussi, John.
Donc, okay, merci.
Donc avec Bomber Harris et tout ce que les Anglais ont fait en commençant avec le bombardement de saturation, le cibler les innocents a commencé bien avant. Et elle aurait pu souligner ça. Est-ce que sa décision de cibler Harry Truman est liée avec le fait que 2 ans avant, le gouvernement américain a commencé à stocker des bombes nucléaires en Angleterre, ça veut dire en 54. So, Miss Anthem, as you already pointed out, was forming people to be conscientious objectors before the war. And Bomber Harris and the politics of the British, where they were already doing saturation bombing of innocents much earlier. We didn't follow them until we bombed Munster on a Sunday at noon. That really is the beginning for us, imitating our British cousins. So, what did she choose to focus on Harry because nuclear bombs had just begun to be stored in Britain 2 years before? Or was it just occasional, that is, that he was being given the doctorate? Because they weren't giving Bomber Harris a doctorate.
Right. So, I will answer slowly, so you have time. Now, the thing to recall about Anscombe's protest...
Donc, ce qu'il faut se rappeler de la protestation d'Anscombe...
...was that she wasn't interested in objecting to any old mass murderer getting a degree.
Elle n'était pas intéressée...
Because that wasn't a good enough reason to object to giving somebody a degree. Rather, she objected giving a degree to a... notorious mass murderer. And she thought Truman was a notorious one because that's what he was known for. And that he also repeatedly took delight in it and was very pleased by it. Certainly all the things he said at the time, wasn't just he had to do it. He just thought this was a wonderful thing. And it also particularly offended Anscombe because while she thought you could expect somebody like Stalin or Hitler to do such terrible things, Truman was a self-professed Baptist Christian. And she thought this was particularly shameful that such a man would do this. So it wasn't just Eccles. I don't think it was the atomic bomb per se. I think it was who did it and when it was done. Obviously, there was lots of more efficient mass murdering going on. Dresden, Tokyo, more people died in the night in those. But I think it was peculiarly Truman's notoriety. And I might add... In learning a lot about her protest, she didn't just make one protest. She protested all through the month of June. And the papers were reporting. And by the time June 20th, when he came, one quarter of the coverage in all the newspapers, up to one quarter, reported her protests. And it'd been going on in the paper for weeks. By the time of the 20th, they didn't even, they just said Anscombe stays at home. They didn't even have to say who she was, right? Because everybody knew. And when Truman showed up, he was asked, and he said, "Oh, I didn't hear about anything. The British are very polite," which we can know almost 100% was a lie. There's no way his advisors would not have prepared him for that. And secondly, from other records I have earlier in the process, Truman had no problem telling you one thing and then doing the opposite, which was the experience of the people who were giving him a degree.
Donc j'espère que les non-anglophones ont pu attraper quelques éléments de la réponse passionnante et très développée de John Berkman, qui est un fin connaisseur du contexte historique dans lequel Elisabeth Anscombe a écrit. Peut-être qu'on peut prendre encore une autre question. Et John, if you can just give a short answer,
yes, very
to
short.
The last question.
Yes. I can hear you.
A question to both of you, Blandine, as well. Looking at it from the side of Oxford University, one of the most interesting things for me as a humble graduate of Cambridge is the attitude of Oxford to her. And can one analyze that in any greater depth? I mean, the one survey I read of it just simply said, well, she's a woman and she's a nuisance. What are the women up to? And should be suppressed. And of course, it's a kind of tradition. If somebody comes along and as embarrassing as her, she simply has to be eliminated. But can one go any further into the indifference that the Oxford had as a so-called world-class institution?
Well,
to total lack of any moral sense whatsoever.
Well, this is what actually got Anscombe going, was the fact that her society at that time didn't have a problem with mass murder of innocents. And no, that's not true, actually. And she was highly influential on the recovery of just war thinking. And whatever you want to say, there is no doubt that today, for example, the US, the UK, other militaries take just war seriously in a way they did not at the time. There is that discrimination that goes on. Doesn't always happen, but is taken far more seriously.
Eh bien, c'est très bien. Comme le temps avance, je suis heureuse de laisser la parole à Valérie et Rémi pour nous présenter leur ouvrage passionnant. Et vous avez droit à deux micros.
Ah, merci,
super.
Peut-être on prend...
Je mets un timer. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être là. Merci à Blandine pour son invitation pour cette journée. Très réussi, et donc c'est un grand plaisir de poursuivre avec vous et davantage de public. Alors notre propos à nous, c'est une façon un peu différente parce que nous on est là comme traducteur essentiellement. Hein, le volume que je mettais en avant tout à l'heure, c'est le volume qui est paru en septembre 2025, dont on a assuré la traduction Valérie Vincent Boyer qui est absent aujourd'hui, il vit au Canada donc il pouvait pas se déplacer juste pour nous voir hélas, et moi-même. Donc Blandine a dit tout à l'heure de façon intéressante, enfin rappeler que Anscombe elle est rentrée assez tardivement au programme de terminale en philosophie il y a quelques années seulement, et ce qui est vraiment très étrange c'est qu'elle est rentrée à un moment où en fait honnêtement la majeure partie des collègues de lycée ne la connaissent pas, ne l'ont peut-être même pas étudiée, peut-être un peu lue mais au passage. Et à un moment où, en plus, il n'y avait quasiment rien de disponible en français. Qu'est-ce qu'on trouvait dans Anscombe au moment où elle rentre en terminale, au programme de terminale? On trouve la traduction de L'Intention, qui a été assurée par Cyril Michon et un de ses étudiants, Mathieu Maurice, hein, Cyril Michon qui était tout à l'heure avec nous. Donc c'est quand même très bizarre. Et d'une certaine manière, le projet, c'était... Enfin, il n'est pas né de cet état, mais il a sauté sur cet état de choses pour proposer à un éditeur de combler un petit peu le vide, hein, d'essayer de diffuser davantage la pensée d'Anscombe. Mais évidemment, c'était pas la seule raison, vous en doutez. En fait, c'est un travail qui s'inscrit dans une réception francophone du travail d'Anscombe qui est à la fois quand même ancienne, parce qu'en fait, elle remonte aux années 70, je voudrais en dire quelques mots rapidement. Et qui se déploie aujourd'hui. Pourquoi dans les années 70? Parce qu'en fait, si je me trompe pas, le premier à vraiment s'intéresser à Anscombe en France, c'est Paul Ricoeur, dans un séminaire de 1976 qui s'appelle La sémantique de l'action, qui a été publié aux éditions du CNRS. Il a lu un certain nombre de philosophes qui s'intéressaient à des notions d'action. Puis vous le savez sans doute, Paul Ricoeur lui-même, il a fait une thèse sur le volontaire et l'involontaire. Ce sont des thèmes évidemment qui l'intéressaient avec une toute autre approche. Et à sa manière, donc quelqu'un qui a cette générosité d'aller lire d'autres auteurs que qui ne connaît pas forcément. Donc dans ses cours, il a beaucoup discuté plusieurs philosophes importants, dont Anscombe. Et on retrouve aussi des traces de ce travail dans un autre ouvrage. Alors j'ai pas toutes mes notes sous les yeux, mais si je me trompe pas, c'est Soi-même comme un autre. On a une lecture critique d'Anscombe qui l'intègre en fait dans la tentative de formuler son projet d'une herméneutique pour dépasser l'approche phénoménologique initiale. Donc je ne vais pas parler de Ricoeur maintenant, j'en serais d'ailleurs pas forcément capable, mais pour dire que dans les années 70, enfin milieu des années 70, il y a ce moment autour de Paul Ricoeur, et un de ses étudiants qui s'appelle Jean-Luc Petit va écrire une monographie, La philosophie analytique de l'action, qui sera une introduction en fait aussi de Davidson en français, un premier jalon, dont moi j'ai entendu parler par mon propre directeur de thèse, qui s'appelle Denis Vernant, je salue au passage, même si je sais qu'il ne m'écoute pas, il ne m'a jamais écouté, mais c'est pas grave. Je n'ai jamais convaincu mon directeur de thèse. Ça c'est un premier moment de la réception. Alors il me semble qu'il y a un deuxième moment, la réception française, c'est autour de l'EHESS, un établissement qui est pas si loin d'ici, hein, l'école des hautes études en sciences sociales, du côté cette fois plutôt des sociologues. Des gens comme Louis Quéré ou Patrick Farrow, la revue Raison Pratique. En fait, ce sont des sociologues aussi qui sont intéressés par la sociologie de Max Weber, entre autres, et qui sont très intéressés par la question de l'explication des actions. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer les actions? Quel modèle la sociologie doit-elle avoir? Donc, est-ce qu'expliquer les actions, c'est fabriquer une théorie qui décrit des mécanismes, qui identifie des causes, qui font agir de telle ou telle manière les acteurs sociaux? Ou bien est-ce qu'au contraire, il faut avoir une approche qui fasse droit à la perspective des agents eux-mêmes, aux raisons qu'ils ont de faire ce qu'ils font, à la manière dont ils formulent ces raisons, ainsi de suite. Donc cette distinction qu'on trouve entre les raisons et les causes, l'explication contre la compréhension, des thèmes évidemment qui datent pas simplement des années 80, hein, que vous trouvez chez les philosophes et les historiens allemands au XIXe siècle et ensuite, hein, toute la tradition d'Hilteienne. Bien bon, donc Weber en fait est aussi un héritier tardif. Donc il y a une lecture, des échanges autour de ce qu'Anscombe a à dire, étant donné que dans l'intention, justement, dans cet ouvrage, bah, il y a une attention assez fine portée à ce que c'est qu'une raison d'agir, comment est-ce qu'on définit une raison d'agir, quelle est la différence avec la notion de cause, des thèmes qu'on trouve aussi chez Wittgenstein, peut-être de façon un peu plus fragmentaire, mais qu'elle développe de façon, disons, plus systématique. Et puis il y a un troisième moment, alors qui est un peu à part. Je pensais qu'il y avait un lien entre le deuxième et le troisième, mais Vincent Descombes me dit que non. Donc le troisième, c'est autour de Vincent Descombes, qui est un grand philosophe contemporain. C'est une pensée pour lui au moment où j'en parle, auquel nous devons beaucoup Valérie et moi, parce que j'en dirai peut-être un petit mot rapidement, mais à un moment donné, on avait un groupe de travail autour de la philosophie d'Anscombe, et Vincent Descombes nous a fait l'amitié d'être présent à toutes les séances qu'on organisait alors qu'on était doctorants l'un et l'autre, hein, donc il a vraiment payé de sa personne pour nous aider. Et donc Vincent Descombes lui-même, il a rencontré Anscombe de façon tout à fait autonome, en s'intéressant d'abord en fait à la philosophie grecque, sur laquelle il a travaillé dans le cadre d'un doctorat de troisième cycle, puis il a rencontré en fait directement des collègues d'Oxford qui l'ont mené sur la piste d'Anscombe au moment où, si je me trompe pas, il était en poste à Johns Hopkins au Canada. Et donc il y a ce foyer autour de Vincent Descombes, et Cyril Michon qui était là tout à l'heure aussi a participé très directement à cette réception, puisqu'on lui doit, comme je le disais, la traduction d'Intention en 2001, avec Mathieu Maurice, un de ses étudiants. Donc ça, c'est voilà quelques balises, hein, pour montrer que historiquement il y a une certaine profondeur, mais malgré ça, il y avait en fait assez peu de choses disponibles. On avait quelques textes traduits ici ou là dans des revues spécialisées. La philosophie morale moderne, il y avait une traduction en ligne dans la revue Clésis. La première personne, ça avait été traduit dans une revue étudiante, la REFA, qui était éditée par la Sorbonne. Voilà. Bon, donc il y avait quelques éléments, et donc ce qu'on voulait, c'était justement que tout ça soit réuni, accessible, et puis qu'on puisse donner à la fois aux étudiants, aux élèves de lycée, aux collègues et au grand public la possibilité de rentrer dans la lecture d'Anscombe. Alors c'est d'autant plus important que, en fait, si jamais vous avez eu la curiosité, je vois que certains ont le livre devant eux, d'essayer de lire l'intention, c'est redoutable, c'est très difficile de rentrer dans le texte. Parce que, alors pour plusieurs raisons, hein. Il y a d'abord parce que Anscombe, elle a une écriture particulière, une écriture très dense. En général, c'est quelqu'un qui ne répète pas les choses. Elle dit les choses une fois, et il faut être attentif. Si vous avez raté l'idée, bah c'est trop tard, elle va pas y revenir. Enfin, elle a un côté très concis, très très expéditif. Donc ça demande un effort de lecture qui est difficile, hein. Un petit peu comme Wittgenstein aussi, elle a tendance à laisser une partie du travail à son lecteur, donc elle ne donne pas forcément toutes les conséquences, tous les attendus, tous les présupposés de la réflexion. Donc ça suppose d'arriver à comprendre ce qui est en jeu exactement. C'est un peu le genre de difficulté que vous trouvez en lisant Wittgenstein, les recherches philosophiques. Recherche philosophique, il n'y a aucune difficulté terminologique. Il n'y a pas de, c'est pas Hegel ou Heidegger ou des auteurs qui ont une langue, qui ont forgé des concepts ou une façon d'utiliser la langue très, très, très propre à eux. Là, pas du tout. C'est un anglais très, très courant. Mais parfois, c'est compliqué de savoir où elle veut en venir, pourquoi elle dit ce qu'elle dit, etc. Donc, en fait, ce sont des auteurs où, souvent le plus difficile, c'est de comprendre, quel est le clou sur lequel ils veulent taper. Voilà. Donc, c'est difficile, d'autant plus que, à la manière britannique oxonienne en particulier, en tout cas dans les années 50, on n'aime pas mettre des notes de bas de page, on n'aime pas dire de qui on parle ou à quoi on fait référence, parce qu'on suppose que tous les gens qui vous lisent, et d'ailleurs qu'on connaît très bien, savent très bien de quoi on parle, puisqu'ils ont la même formation, ils ont les mêmes références en tête, ils sont tout à fait aptes à déceler dans le texte la référence à tel ou tel. Donc il y a une forme d'élégance, hein, mais évidemment ce sont des textes, il n'y a pas de notes, c'est très, très agréable à lire, mais quand on est francophone et qu'on débarque dans cet univers, ça peut être particulièrement compliqué. Donc nous, on s'est permis de rajouter quelques notes de bas de page explicatives ou pour essayer d'éclaircir les références quand on est à peu près sûr de notre coup. Hein, on s'est peut-être trompé, donc si vous avez des retours, on sera preneur. Donc voilà, ça c'est une deuxième difficulté. À côté de du style d'écriture, il y a cette façon d'écrire, hein, de faire des articles sans notes, de pas donner les références. Et puis surtout, il y a un troisième aspect, qui est que Anscombe a écrit essentiellement des articles, hein, ça aussi c'est la tradition britannique si j'ose dire, alors que la tradition française ou allemande, disons continentale, est plutôt de faire des monographies, des textes assez longs sous forme de livres. Et Anscombe elle-même, elle a regroupé certains articles en trois volumes lorsqu'elle a pris sa retraite en 1981, les Collected Papers, hein, donc regroupés avec des thèmes en quelque sorte, From Parmenides to Wittgenstein, premier volume, deuxième volume, Metaphysics and Philosophy of Mind, troisième volume, Ethics, Politics and Religion. Donc ça vous dit pas grand-chose, ça vous dit juste un peu le genre de regroupement qu'elle fait, et elle s'explique un peu sur ces regroupements dans des avant-propos qui sont assez brefs, mais quand même importants et intéressants. Donc on a en fait des regroupements, mais on n'a pas forcément de clé de lecture très évidente, très simple, pour comprendre dans quel ordre lire ces articles, comment est-ce qu'ils se relient les uns aux autres. Et dans l'après-midi, Roger Puivet s'est remarqué très justement que souvent ce qui est éclairant, c'est de trouver quels sont les articles qu'on doit considérer en même temps pour les lire ensemble. Parce que Anscombe, souvent, elle a... et après, j'avais trop de choses à dire. Mais je m'arrêterai sur ce point-là. À savoir que donc la difficulté, c'est pour trouver comment rentrer dans les textes, comment souvent regrouper les articles à lire, sachant que dans certains articles, il y a des points qui sont analysés de façon très très approfondie, très en détail, alors que dans d'autres, le même thème va être évoqué en deux ou trois phrases, comme s'il n'y avait pas de difficulté particulière. Et ça, donc ça demande une certaine pratique, une circulation répétée dans les textes pour se rendre compte un peu qu'en fait, la pensée d'Anscombe a une forme de cohérence, sinon peut-être de systématicité. Et d'une certaine manière, le regroupement qu'on a proposé, nous, essaye de... Donc on s'est abstrait en fait des collections d'articles qui sont parus en anglais, mais pour cette raison-là, pour essayer de créer des thèmes, une circulation dans les textes qui à la fois permettent de rentrer plus facilement, de comprendre l'importance de certains thèmes, et puis aussi de voir la chronologie, on a essayé de conserver cet aspect à titre informatif pour que les gens se repèrent mieux. Donc voilà un petit peu la présentation du projet d'ensemble. Et je sais pas si... Voilà, je te laisse... poursuivre.
Oui, non, c'est vrai, merci. Rémi a beaucoup dit sur la façon dont on a, enfin sur plutôt la place que ce texte a un peu dans le paysage francophone qui travaille sur Anscombe. Et moi, je voudrais peut-être revenir un petit peu sur l'articulation justement entre ce texte qui paraît donc en 2025, et donc l'intention qui paraît quand même pour la première fois en 2002, donc il y a eu quand même 23 ans d'écart, entre l'intention et cet ouvrage. Et donc effectivement, l'un des projets, c'était de trouver des textes qui permettent d'éclairer certains aspects de l'intention, donc du texte sur l'intention, qui lui-même est motivé en fait par le Catwoman. Et donc ça, je voulais en dire juste deux mots, même si Blandine l'a déjà évoqué, hein, puisque l'objectif de l'intention, Blandine le disait, c'était d'éclairer notamment les concepts de l'action, mais c'est aussi en fait de déterminer qu'est-ce que c'est que d'écrire une action humaine. Et qu'est-ce que d'écrire une action humaine ? Et là-dessus, d'ailleurs, je marquerai un petit désaccord avec ce que disait Blandine, parce qu'il ne s'agit pas tellement de choisir la bonne description, mais plutôt de considérer l'ensemble des descriptions et aussi de considérer les descriptions qui rendent compte de notamment des intentions des agents et de critiquer l'idée qu'un agent pourrait choisir parmi ces descriptions unilatéralement, enfin, diriger ses intentions, hein, sa thèse des directions d'intention, et simplement décider, lui, quelle est la bonne description de son action tout seul dans son point. Donc, cette question de l'importance de la description, en fait, on pourrait dire qu'elle est à l'arrière-plan aussi du texte sur l'action humaine, puisqu'on s'est concentré sur un concept, donc celui d'action humaine, qu'on trouve dans l'intention, mais qui n'est pas du tout thématisé dans l'intention. Alors qu'il y a plein d'endroits où elle pourrait dire l'action, mais elle dit l'action humaine. Elle précise humaine. Et donc on s'est intéressé aussi sur le caractère humain de cette action, qui relie en fait le texte de l'intention à des questions éthiques. C'est-à-dire que effectivement le texte de l'intention, comme le disait Rémi, il a été beaucoup lu comme un texte de philosophie de l'action, en fait quasiment de critiques conceptuelles, des explications causales de l'action, etc., donc d'un certain héritage de Davidson, de Donald Davidson. Mais en réalité, encore une fois, ce texte, il est motivé par le Catwoman et, en fait, il met en avant un certain concept d'action humaine, qui est l'action qui nous intéresse, en fait, sur le plan de l'éthique et de la morale. Et donc il y a d'autres textes, notamment des textes qu'on a publiés ici, mais je ne sais plus exactement dans lequel c'est, où Anscombe dit en fait quand les philosophes s'intéressent à l'action, généralement en fait ils sous-entendent l'action humaine. Ce qui les intéresse, c'est l'action humaine. Et donc évidemment tous ces textes-là ne suffisent pas à éclairer l'intention, mais ils permettent quand même de voir certaines articulations entre d'autres questions qui ont été traitées chez Anscombe. Et donc juste très brièvement pour vous présenter un peu le contenu en fait du texte, enfin de l'ouvrage. Donc on l'a divisé en 5 parties, si je dis pas de bêtises. En 5 parties. La première, donc on l'a intitulée Décrire et juger les actions humaines, et elle commence par l'autre texte très connu d'Anscombe après l'intention, qui est la philosophie morale moderne. Qui a été beaucoup discuté, mais un peu en fait à côté de l'intention. C'est-à-dire il y a eu un peu, en tout cas dans la philosophie analytique, un peu des débats sur, enfin des discussions sur l'intention, puis des discussions sur la philosophie morale moderne, sans jamais que ces deux textes soient reliés, alors qu'ils sont quasiment contemporains l'un de l'autre et qu'en fait ils sont très liés l'un avec l'autre. Et donc cette première partie sur décrire et juger les actions humaines, justement, on articule cette question de la description de l'action qui est l'objet de l'intention, et notamment de la description de l'action qui renvoie à la question des intentions, hein, de que c'est qu'une action intentionnelle et que décrire une action intentionnelle et comment est-ce qu'on obtient en fait ces descriptions d'actions intentionnelles, et puis cette question de juger les actions humaines, donc la question ensuite est-ce que c'est bon ou mauvais, est-ce que c'est bien ou mal. Et donc ces textes-là nous permettent d'articuler donc ces deux idées-là qui sont en fait pour Anscombe très étroitement liées, même si elle les sépare. Elle a voulu séparer la question dans l'intention, justement pour montrer que on peut pas commencer à faire de la philosophie morale, à dire si c'est bien ou mal, avant d'avoir déterminé comment on décrivait ce qui s'était passé. Et donc ça, c'est pour la première partie du travail où en fait on retrouve hein, cette idée d'action humaine dans le dernier texte qui s'appelle La bonne et la mauvaise action humaine. Où là justement on voit très clairement l'articulation entre ces deux idées-là. La deuxième partie, donc, c'est sur la vérité pratique. Alors là, il s'agit de discussions plutôt exégétiques sur Aristote et sur le concept difficile de vérité pratique. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ces textes-là, c'est que justement on voit comment, donc, dans l'intention, elle s'intéresse beaucoup à la structure des moyens et des fins dans l'action intentionnelle. C'est-à-dire une action intentionnelle parfaitement développée, c'est la question de savoir quels moyens je vais mettre en œuvre pour parvenir à mes fins, ou quels moyens est-ce que j'ai mis en œuvre pour parvenir à mes fins. Et pour le cas Truman, le problème, c'est que le moyen était mauvais, et donc Truman ne peut pas dire « mais ma fin était bonne ». Mon moyen était mauvais, mais ma fin était bonne. Et en fait, ce que dit Anscombe, c'est que les moyens et les fins s'articulent de telle sorte qu'on ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire que le moyen ne faisait pas partie de mon action et les fins en faisaient partie. Et donc elle s'intéresse beaucoup à cette question du raisonnement pratique, hein, et de ce qu'elle va appeler la connaissance pratique. Et du coup, le concept de vérité pratique, il n'est pas très... La question de savoir si elle l'appliquerait, elle, à son analyse du raisonnement pratique, reste ouverte, je dirais, mais par contre, elle est peu éclairée, la question de savoir dans quelle mesure est-ce qu'une connaissance pratique irait jusqu'à la question de la connaissance du bien, hein, donc du bien agir, et pas seulement donc d'un savoir instrumental ou de l'idée de que je sais ce que je fais quand j'agis et que je sais comment bien faire une chose, mais simplement sur un plan qui serait pour ainsi dire instrumental. Donc la question de la vérité pratique va jusqu'à la question de la connaissance pratique inclut la connaissance du bien, en fait. La troisième partie, donc c'est les textes clairement plus techniques sur justement causalité, la question de l'explication causale des actions et la critique de l'idée que les explications de l'action seraient de l'ordre de... on pourrait en rendre compte dans le registre de la causalité, d'une causalité notamment empruntée aux sciences de la nature, hein, aux explications causales des sciences de la nature. Donc il y a vraiment cette idée qu'on peut en fait diversifier la notion de cause et comprendre d'autres types de causalité, notamment la causalité historique, hein, qui est un exemple qu'elle prend dans son texte sur la causation de l'action. La quatrième partie, elle se concentre sur un autre aspect, en fait, un autre héritage important d'Anscombe qu'on trouve plutôt dans l'intention, mais qu'en fait, qui est dans plein d'autres textes, qui est la critique de ce qu'on appelle le mentalisme, c'est-à-dire la critique de l'idée que mes états d'esprit seraient des choses auxquelles j'accéderais de manière interne, directement par une sorte de perception interne, et notamment... En lien avec cette idée-là, dans la philosophie de l'action, il y a l'idée, la critique de l'idée que mes intentions, ce serait quelque chose que je déterminerais intérieurement par une sorte de pensée magique ou de phrase qui accompagnerait mes actions. Et donc avec cette idée que soulignait Blandine, que en fait l'intention, elle est dans l'action, elle est indissociable en fait de ce que nous faisons, même si bien sûr parfois on ne sait pas ce qu'on a l'intention de faire. Il y a aussi un texte très important, enfin très discuté, mais pareil, un peu dans d'autres registres, d'autres réceptions d'Anscombe, qui est le texte sur la première personne, qui a été pas mal discuté, en fait, plutôt dans un contexte de philosophie du langage, alors qu'en réalité, et ça c'est Descombes qui l'a bien montré notamment, hein, c'est un texte clairement de philosophie de l'esprit, c'est un texte sur une critique des philosophies de la conscience, de Descartes, etc. Et alors la dernière partie, elle regroupe aussi un certain nombre de textes qui ont fait aussi l'objet de pas mal de discussions, mais plutôt en philosophie morale, et qui sont des textes sur justement comment est-ce qu'on comprend, comment comprendre la notion de devoir moral, et comment comprendre notamment, hein, je vais vite parce qu'il y a plein d'autres éléments, notamment il y a le texte sur l'idéalisme linguistique qui est plutôt sur Wittgenstein. Mais l'un des enjeux de ces textes-là, c'est notamment comment est-ce qu'on comprend la contrainte morale, sachant que, comme le dit Hume, la contrainte morale, elle n'est pas naturellement intelligible, c'est-à-dire le fait que je considère qu'il y a des choses que je dois faire pour des raisons morales, même Anscombe compare ça aussi aux règles de l'étiquette, aux règles d'un jeu, aux règles de la vie pratique, aux règles du langage, etc. Donc toutes ces règles qu'on... tous ces devoirs, hein, qu'on acquiert au cours de nos vies humaines, dans l'apprentissage de nos vies humaines, sont pas des devoirs qu'on peut expliquer par une causalité logique ou une causalité physique, mais c'est un autre type de causalité ou un autre registre d'explication, un autre type de devoir. Je ne sais plus qui citait ça, mais c'est typiquement le genre de devoir. Je crois que c'était une citation de Wittgenstein que tu donnais. C'est typiquement le genre de devoir où quand on nous dit tu dois faire ça, on a tout de suite envie de dire mais pourquoi ? Et je pourrais très bien ne pas le faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la force de la règle. Comment comprendre la force de la règle alors même que elle n'est pas alors que sa contrainte n'est pas naturelle. Et donc elle, là, il y a eu toute une analyse justement de l'apprentissage de la règle, etc. Et toutes ces questions-là sont évidemment en lien aussi avec la question qu'évoquait aussi Blandine sur l'enracinement. Alors, on peut dire humain de ces devoirs, hein, de ces types de devoirs qui sont liés aussi à nos formes de vie, et donc la question de savoir dans quelle mesure certains devoirs ou certains interdits, comme l'interdit du meurtre, par exemple, sont en continuité avec notre humanité, en fait, hein, et avec notamment le concept de dignité humaine que Blandine met en avant. Voilà, j'espère que j'ai. Et donc, voilà l'idée, et on est loin d'avoir fini parce qu'il y a plein d'autres textes qui non seulement qui peuvent éclairer l'intention, mais aussi qui peuvent se lire les uns avec les autres et s'éclairer les uns les autres. Voilà, merci beaucoup.
Bah, merci pour cette présentation. J'espère qu'elle vous donne envie de plonger dans les textes d'Anscombe en français. On peut prendre encore 5 minutes de questions et puis on conclura ensuite notre soirée.
Bonsoir, j'ai deux petites questions. La première, qu'est-ce qu'un lycéen français qui prend un cours de philosophie doit ou va retenir d'Elisabeth Anscombe? Ça, c'est pour vous. Et la deuxième, je reviens juste sur une question qui a été faite précédemment, qui liait l'attitude d'Anscombe vis-à-vis de Truman à un contexte politique anglais précédent, qui la ferait passer plus pour une activiste que pour cette philosophe que Blandine nous décrivait, et ça me laissait un goût amer, la question. Donc c'était plutôt une question pour vous, mais la première est sur l'héritage qu'on laisse aux jeunes lycéens.
Je peux essayer, mais... Alors j'ai envie de dire, vous me demandez de prédire l'avenir. C'est compliqué parce que le programme de philosophie de terminale a une liste d'auteurs. Cette liste d'auteurs sert simplement à cadrer l'ensemble dans lequel on va piocher un sujet de bac. Donc il n'est pas obligatoire, enfin, c'est simplement une délimitation pour l'examen. Mais les professeurs ont une liberté pédagogique, ce qui veut dire qu'ils peuvent très bien ne pas étudier Anscombe. Donc le fait qu'elle soit dans le programme, ça ne veut pas dire que nécessairement les collègues vont la lire, hein. Et par ailleurs, s'ils l'étudient, s'ils se servent de ces textes, sur quoi ils vont insister, difficile à dire là aussi, là la pratique nous le montrera, mais s'il faut faire une sorte de conjecture, je pense qu'ils se tourneront vers des textes qui sont dont les enjeux sont les plus immédiatement saisissables. Donc probablement des textes justement qui ont peut-être lié la situation du doctorat de Truman, ou bien... tout ce qui concerne l'imputation d'une action, peut-être la difficulté qu'il y a, si par exemple, je sais pas moi, vous avez, enfin c'est un exemple d'Anscombe, vous apportez une assiette pleine de soupe à votre épouse, et dans l'assiette pleine de soupe il y a du poison, est-ce que vous avez empoisonné votre femme? Ça dépend de la question de savoir si vous saviez ce qu'il y avait dedans. Enfin, voilà. Donc, d'examen de cas, est-ce qu'on peut dire de la personne qu'elle a empoisonné sa femme? Est-ce qu'on peut du coup la taxer de meurtre, en fait, est-ce qu'on peut l'accuser de meurtre? Imaginons un tribunal, comment est-ce qu'il réfléchirait? Il y a quelque chose de ça chez Anscombe, on a vraiment un aspect qui est très proche du juridique, en fait. Quels sont les faits? Voilà. Moi, j'imagine que ce serait vers ce genre d'anecdotes de situation type plutôt qu'on se tournerait pour essayer de lire des textes.
Je peux juste dire une chose. Et sur Truman, c'est vous.
J'ai attrapé la question au vol, donc je ne suis pas sûre de l'avoir bien comprise, mais c'était sur peut-être l'écart entre une militante et une philosophe. Ok, si je résume. Il me semble que l'impression est tout à fait justifiée. Et quand j'évoquais le titre dont elle a été décorée, enfin Daniel moderne dans la fosse aux lions, il y a quand même une assimilation de sa posture à celle d'une militante qui contre en fait, qui fait acte de dissensus face à un accord qui semble évident entre tous ses collègues. Peut-être qu'au fond, je reste quand même persuadée qu'elle reste une philosophe, parce que une des questions qu'elle se pose, et pour moi ça pourrait être le motto d'Elisabeth Anscombe. J'appelle ça son daimon, c'est-à-dire en fait l'inquiétude existentielle qui l'habite tout au long de sa carrière philosophique. C'est une question. Alors, le daimon de Socrate, c'est une sorte de génie intérieur qui agit comme un aiguillon. Et cette question, c'est peut-être que d'une certaine manière, que je ne vois pas, je suis sur une mauvaise voie. Peut-être que je me trompe désespérément à propos de quelque chose d'essentiel. C'est une citation de Modern Moral Philosophy. La question de la vérité de ce que nous sommes en train de faire. Et la possibilité toujours réelle, dramatique, de ne pas faire ce que nous pensons faire pourtant, agit comme un moteur critique en fait, hein, comme un daimon qui l'accompagne sans cesse. Et pour moi, c'est ce qui fait que, au-delà de la militante ou de la résistante ou de la femme capable de s'opposer, elle reste philosophe. C'est-à-dire, je pense qu'elle s'adresse cette question à elle-même. Peut-être que d'une manière qu'elle ignore, elle se trompe désespérément à propos de quelque chose d'essentiel. Et pour moi, elle a quelque chose avant tout de socratique, en fait, Elisabeth Anscombe, en réouvrant une question et en la laissant, en assumant une forme de béance, sans chercher des réponses faciles ou des conclusions, les conclusions attendues, en fait. Une dernière question.
Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, pour nous qui découvrons Anscombe, comment vous en arrivez à l'identifier comme une philosophe qui nous ramène à l'éthique des vertus? Et quand on parle de l'éthique des vertus, on convoque tout de suite Aristote. Là, on vous a entendu décrire un travail très de philosophe analytique. Et comment est-ce que vous faites l'enjambement pour la ramener à cette catégorie donc des philosophes de l'éthique des vertus?
Mais le début de ma réponse, ça serait qu'il y a quand même un malentendu. Il y a quand même un malentendu dans le fait de comprendre systématiquement Anscombe comme la pionnière du renouveau de l'éthique des vertus. Un malentendu, ça veut dire que à la fois il y a quelque chose de vrai, mais en fait les éléments de vrai sont vraiment ténus. Et à force de les absolutiser, ben on en dresse le portrait, on en fait le portrait d'une pionnière, alors qu'en fait c'était pas son intention pour le coup. Alors les éléments de vérité, c'est que dans ce fameux article Modern Moral Philosophy qui a été à nouveau traduit dans cet ouvrage, il y a effectivement une question posée par Anscombe. Est-ce qu'il faudrait pas aller rechercher du côté d'Aristote pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, qui est celle d'un monde dans lequel nous continuons à avoir besoin, ou en tout cas à employer la notion de devoir moral avec une force d'obligation, alors même que nous n'avons plus la structure métaphysique qui sous-tend cette force de l'obligation. On est plus dans un monde où, de manière crédible et assumée et partagée, le Dieu législateur peut être donné ce soubassement, cette intelligibilité du coup à la force normative de l'obligation. Et donc il y a un détour, une hypothèse qui est faite en revenant à Aristote. Mais en fait, moi ce que j'avais découvert dans ma thèse, c'est que en fait le terme de vertu apparaît très peu dans l'œuvre d'Anscombe. Ce qui l'intéresse davantage chez Aristote par la suite, c'est l'idée de nécessité pratique, c'est-à-dire des besoins fondamentaux qui sont ceux de la nature humaine, de ceux qui partagent la forme de vie des humains. Et c'est véritablement ça qui va être le centre de certaines de ces enquêtes. Mais en fait, la notion de vertu, elle n'apparaît pas. Elle semble être donnée de manière programmatique dans Modern Moral Philosophy, mais quand on lit la suite de l'œuvre, on peine à trouver d'autres attestations de cette question des vertus. Donc il y a une forme de malentendu. Mais c'est un malentendu qui a eu aussi son avantage, son bénéfice. Parfois, les malentendus ont aussi de bons côtés. C'est que du coup, on a su l'identifier. On a identifié Anscombe très bien. Il y a Anscombe, ensuite il y a McIntyre, ensuite il y a Servet-Pinkers, et du coup on comprend dans cette constellation-là, elle trouve une place. À la fois il y a des éléments, des indices qui peuvent pousser en ce sens. En même temps, quand on les absolutise, on se rend compte qu'on répand une image faussée en fait du projet d'Anscombe. Je pense que vous avez aussi des choses intéressantes à dire sur cette question.
J'ai pas grand-chose à rajouter. je pense que c'est tout à fait juste, effectivement, qu'elle est un peu abusivement considérée comme une éthicienne des vertus. Et effectivement, dans Modern Moral Philosophy, c'est très programmatique. Et au fond, ce qui l'intéresse, c'est quand même de comprendre. Ce qui consolide nos devoirs moraux, quoi. À partir de quoi on peut les comprendre, ou plutôt dans quel jeu de langage on peut les comprendre, dans quel registre de discours on se trouve quand on parle de questions morales.
Ouais, c'est pour dire un peu, moi j'ai l'impression que ce qui l'intéresse vraiment, c'est de réintroduire la notion de vérité et que de vérité. Et par exemple, dire ça c'est injuste. C'est une description. C'est pas simplement une évaluation de mon point de vue ou l'expression d'une préférence. Non, il y a des conditions de vérité. Et sauf que c'est très compliqué de décrire les conditions de vérité d'un prédicat comme injuste. Mais elle essaye de faire ce lien à plusieurs endroits. Donc il y a la philosophie morale moderne. Il y a le petit article qui va avec, qui s'appelle On Brute Facts, sur les faits bruts. Essaye de montrer comment, si je dis de quelqu'un que c'est une crapule, je peux justifier ma déclaration par un certain nombre de faits. Tout ça, c'est des discussions qu'elle a eues beaucoup avec Philippa Foot, Mary Midgley, Iris Murdoch. C'est ce qui est assez bien raconté dans l'ouvrage de Rachel Wiseman et Claire McCool, le Quartet d'Oxford. Moi, il me semble que Philippa Foot, elle a pris une partie de ces questions ensuite qu'elle a cherché à développer dans Le Bien Naturel, un des derniers ouvrages dans début des années 2000. La traduction, c'est début des années 2000, si je ne me trompe pas. Philippa Foot, elle essaye vraiment de donner une formulation solide de cette idée de bien naturel qui serait visée, qu'on pourrait décrire à propos de la forme de vie humaine, etc. Donc c'est sûr que à la fois Anscombe, elle a pas fait ce travail-là, mais en même temps, elle est un peu au cœur du réacteur parce que les discussions qu'elle a eues avec Philippa Foot, elles se sont étendues sur des années. Elles n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses. Elles se sont, c'était des amis en même temps avec un grand désaccord sur des points importants. Et donc elle a servi aussi de ferment en quelque sorte, enfin plus que de ferment, je trouve pas la bonne image, mais elle a vraiment eu un rôle dans ce sens-là. Ouais.
Je propose qu'on s'arrête là, parce que là le temps a filé et qu'il est, c'est le moment de vous remercier d'avoir fait le déplacement. Merci aussi pour ceux qui étaient par Zoom avec nous. C'est toujours un privilège pour les traducteurs, pour les auteurs, de pouvoir rencontrer et converser autour de nos travaux. Donc un grand merci à vous. On espère qu'il y aura d'autres événements anscombéens qui auront lieu dans cette maison à l'avenir. Et alors là, accrochez-vous, je vais faire la minute d'autopromotion. Il n'y en aura qu'une seule dans ma vie, mais c'est ce soir. En fait, on a quelques exemplaires du livre de John Berkman à prix d'auteur, 27 euros, et quelques exemplaires de ce livre-là, 30 euros à prix d'auteur. Malheureusement, on n'a pas réussi.
Non, Gallimard, il se déplace uniquement pour des grosses quantités. Donc... Ils nous ont... Voilà, il faut aller. Mais on le trouve partout, par contre. Il est sold out. Ouais.
Tout à fait. Et vraiment, on le trouve partout. C'est une référence. Donc voilà, si ça vous intéresse,
on le vend le double du prix, nous.
Si ça vous intéresse, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à passer chez le libraire. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore.
Et merci à Blandine pour tout ça.